Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est exactement Henriette Walter que vous allez retrouver et écouter avec plaisir. C'est elle qui anime avec sa compétence de linguiste, elle qui est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne, qui anime cette série d'émissions établies en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Dans une première émission, Henriette Walter avait défini la différence entre une langue, un dialecte, un patois, si différence il y a d'ailleurs. Dans la deuxième émission, les grandes divisions géolinguistiques, nous avons étudié toute une série de langues, il y en a 18 au total, ce sont les langues régionales parlées en France. Cette fois-ci, nous allons aborder les langues d'oc d'une manière globale. Bonjour Henriette Walter.
Bonjour.
Parce que les langues d'oc, il faut savoir exactement ce qu'elles sont, nous préciser
où
un
elles
peu.
Où elles se trouvent et les 18 chapitres dont vous avez parlé, bien sûr, ont des titres, mais évidemment, ça fait un peu plus que 18, hein, le nombre de langues.
Ah, qui sont, oui, 18 chapitres, sûr, ça ne fait pas 18,
les
chapitres, 18
voilà,
langues.
Ça ne fait pas 18 langues, non, exactement.
Non, non, soyons clairs.
Alors parlons de langue d'oc, langue de culture. Si j'ai intitulé cette émission de cette façon-là, c'est pour rappeler l'importance des troubadours, de la vie littéraire qui s'est produite au Moyen-Âge dans ce sud de la France et qui a eu une si grande influence sur les autres littératures de France. Et en particulier notre langue française, quand elle va se réaliser, également dans les langues voisines.
Et la région Languedoc, je suppose que ça, on c'est a commencé, véritablement la région où on a
où
parlé
on parle,
la Languedoc.
Et d'ailleurs, enfin, voilà, exactement. Et d'ailleurs, on a d'abord parlé du pays avant de parler de la langue. C'est curieux, mais on l'a désigné par la façon de parler, finalement. C'est un petit peu ce qui a été fait.
Imprégnons-nous tout de suite de la langue occitane en écoutant un poème d'Aurélia Lassac, une jeune poétesse qui écrit à la fois en langue occitane et en français. Écoutez Le roi de soie blonde.
Le rei de seno sauro engano l'auseline tuteccio lauro qu'il y a d'in l'ervo salvaccio a perdu zuziel fra ubazza la veste d'un soldat per isguiaz un benguzca ne scampazza stripus pel sol per i preni qualche drolo malpintrado, privat de sun cos de sero sauro, de spaurigal, fa de sommis de scavestrats che de sbarion nus ausels. Le roi de soie blonde. Il trompe les oiseaux et il tutoie le vent. Dressé dans l'herbe sauvage, il a perdu ses yeux volés à la veste d'un soldat. Trois jeunes hommes sont venus, qui ont répandu ses tripes sur le sol, pour y prendre quelques filles mal mises. Privé de son corps de soie blonde, l'épouvantail fait des rêves débridés qui égarent les oiseaux.
Merci à Aurélia Lassac pour cette récitation en langue occitane. Alors Henriette Walter, que ce soit l'occitan ou la langue d'oc, on parle bien de la même langue en réalité.
Ce nom de langue d'oc, il est un petit peu controversé. Tout le monde ne dit pas langue d'oc. Il y a des gens qui disent langue d'oc, il y a des gens qui disent occitan, il y a des gens qui disent provençal. En fait, historiquement, il y a aussi un autre terme, l'émosie. L'émosie, c'est-à-dire limousin, car le premier troubadour était limousin. Voilà pourquoi on a aussi employé ce terme-là. Alors, il y a une petite dispute qui se produit dans ce sud de la France entre ceux qui préfèrent donner un nom générique, si vous voulez, occitan, et ceux qui disent, oh, attention, l'occitan s'était unifié autrefois au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, c'est fragmenté en des dizaines de dialectes. Et donc, ils préfèrent dire qu'il y a le provençal, il y a le limousin, il y a le languedocien, il y a le gascon, etc. Donc, moi, je ne prends pas parti. Avec Languedoc, on est plus neutre. Donc, je ne dis pas occitan, parce qu'évidemment, ça voudrait dire que pour moi, tout ça, c'est pareil. Je ne peux pas. Je ne suis pas du pays.
Hein. Vous avez le droit d'avoir une opinion.
N'est-ce
oui,
pas
oui, absolument.
Voilà. Donc, il vaut mieux que je fasse comme ça. C'est vrai qu'il existe des différences sensibles entre le provençal, le languedocien, l'auvergnat, le limousin, le gascon, Et aussi le béarnais, qui est une proche variété du gascon, le nissard, qui est proche du provençal, et pour lequel, évidemment, pour le nissard, on ne sait pas très bien comment écrire ce mot. La plupart du temps, c'est nissard, N-I-2-S-A-R-T. Je ne sais pas pourquoi 2-S, et voilà.
Alors, juste donc, au moins un mot, une dizaine de langues, qui, finalement, entre 8 et 10 langues, qui sont directement des langues doc.
Alors, nous allons les diviser, mais en fait, on pourrait aller beaucoup plus bas, beaucoup plus loin dans la division, puisqu'il y a toujours la dialectalisation qui s'est encore fragmentée en patois. Donc, ça dépend jusqu'où on va dans la petitesse de la région, n'est-ce pas?
Mais c'est dans vrai, les vallées oubliées, alors.
Et voilà, et c'est dans toutes les, pour toutes nos langues régionales, on va avoir le même problème. C'est pourquoi j'aime pas beaucoup donner des chiffres, parce que c'est jamais tout à fait vrai. Parce qu'en plus, il y a les gens qui disent « Non, je ne parle pas la langue régionale », et puis au bout d'un moment, vous entendez cette même personne parler dans la région, comme ça, cette langue régionale.
Parce que eux-mêmes ne savent peut-être pas à quel degré de dialectisation ils se situent.
Exactement, en fait. Exactement. Donc cette langue doc est née dans le Midi. Elle était porteuse de cette poésie lyrique qui a été considérée comme tellement prestigieuse dans l'ensemble des régions à cette époque-là. Elle était acceptée et considérée comme prestigieuse, par exemple, par Alphonse d'Aragon au XIIe siècle, qui composait ses poèmes en langue doc et non pas dans la langue de son pays. C'était intéressant. On pense même que Dante a hésité pour sa Divine Comédie entre le toscan et la langue doc. Formidable. Et on entend un petit peu de langue doc dans la Divine Comédie, dans un des chants de la Divine Comédie, parce qu'il la connaissait bien, cette langue.
De toute façon, mais pour nous, on n'aurait pas pu le lire facilement, ni l'une ni l'autre. Je veux dire, ni le provençal, ni le
On aime mieux l'italien de Dante, on le lit.
On le lit facilement. Tandis que l'occitan, on ne le lit pas facilement.
Plus difficilement.
Il faut des spécialistes.
C'est-à-dire que l'italien de Dante est très ancien. Il est mort en 1321. Il a écrit dans le XIIIe et le XIVe siècle, mais on connaît, même mon mari, c'est les premiers vers de la Divine Comédie.
Oh, mais il est formidable.
Nel mezzo del cammin di nostra vita. Bon, mais c'est surtout vers la France du Nord que cette influence de la langue doc s'est fait sentir. Grâce à Aliénor d'Aquitaine, qui était cette reine tellement extraordinaire, qui s'est mariée deux fois.
Il faut bien lui accorder quelques qualités.
Elle a fait ça. Elle a fait ça aussi.
Bon,
voilà. Donc, elle fait connaître cette poésie des troubadours à la cour de France. Et plus tard, elle va la faire connaître également à la cour d'Angleterre. Et son propre fils, Richard Cœur de Lion, fera des poèmes en langue doc. Et non pas en anglais. Car, comme vous savez, à cette époque-là, l'anglais était seulement la langue des paysans. Et on ne la parlait pas. C'est plus tard, au XVe siècle, qu'est née l'Académie littéraire de Toulouse, le consistoire du Gai Savoir, qui prend l'initiative de composer un code de loi, les Leis d'Amor, afin que se perpétue la tradition de la poésie des troubadours. Autrement dit, il y a eu un passage d'idées qui s'est fait tout au long des siècles.
Retrouvons maintenant Clément Moutier en compagnie de Roger Bernardet, habitant des Landes, qui parle le gascon.
Bonjour monsieur Bernardet.
Bonjour.
Alors, c'est une langue que vous parlez depuis longtemps, n'est-ce pas?
Disons que j'ai parlé gascon même avant de parler français, parce que dans la famille, les grands-parents et même mes parents parlaient plus souvent gascon que français.
Alors, est-ce que vous pourriez nous plonger directement dans le bain en nous disant par exemple que vous êtes heureux d'être ici sur Canal Academy?
Mais que ce rock heureux, des antennes d'un plus Paris, c'est à Canal Academy. Je suis très heureux de vous entendre à Paris, à Canal Academy.
Vous êtes installé dans les Landes, monsieur Bernardet. Est-ce que vous remarquez aujourd'hui que ce gascon est beaucoup parlé ou bien qu'il est en perdition?
Oh, il est en grande perdition, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, les jeunes s'expriment beaucoup moins en gascon. Et ensuite, le gascon avait ceci de particulier, il était riche d'une localisation. Autrement dit, chaque village, chaque canton avait un peu une nuance du gascon. On a essayé de le remplacer et on a essayé de transformer ces gascons particuliers par une langue qui est plus générale, c'est ce qu'on appelle l'occitan. Mais alors là, les vieux ne s'y retrouvent plus. Mais tant mieux si ça peut servir d'outil pédagogique pour ceux qui vont nous succéder. Ils auront la chance de vivre cela. Nous, on a vécu autre chose.
Et vous, vous avez commencé justement à quel âge à parler gascon ?
Le bain de langue, moi, je l'ai eu comme le lait maternel. J'ai eu un bain de langue de gascon avant d'avoir le bain de langue du français. Et ça, c'est formidable d'avoir eu les deux langues. C'est formidable, par exemple, vous n'avez pas la même image, vous n'avez pas les mêmes idées qui vous viennent en tête si vous parlez, par exemple, d'os esclops, c'est-à-dire les sabots, si vous parlez de l'agare, c'est la louche, vous vous rendez compte? Le bouhoum, c'est la taupe, la bugade, c'est la lessive. Chaque mot français ou chaque mot gascon s'entoure de toutes sortes de nuances et je suis quelqu'un qui a vécu ça, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, il fait beau chez moi dans les Landes, en gascon.
Ah, Herbert, ouais, il fait très beau aujourd'hui. Nous avons un bon soleil.
Quittons le soleil des Landes alors pour retrouver Henriette Walter qui a pris l'habitude dans chaque émission de nous dire quelles sont les particularités de chacun des parlés. Henriette, quelles sont les particularités de la langue d'oc ?
Alors, d'abord, globalement, la langue d'oc est plus proche du latin que la langue d'Oïl. C'est important de dire ça. La plupart du temps, on a gardé le même nombre de syllabes qu'en latin, alors qu'en français, on a raccourci les mots, on les a rendus beaucoup plus incompréhensibles si on veut retrouver le latin. Donc, c'est une première chose. L'influence de ce latin, donc, comme le latin est arrivé plus tôt, c'est peut-être la raison d'ailleurs, hein, moins 120, tandis que Jules César, c'est moins 58, moins 58 et moins 51, donc vous voyez, c'était quand même deux générations avant. Donc ça s'est bien maintenu. Aujourd'hui, par exemple, le mot latin faber, ouvrier, qui a pris en français le sens de forgeron plus tard, il a donné naissance à des noms de personnes dans la région qui sont, par exemple, fabre. On retrouve très bien le faber latin, alors qu'en français, qu'est-ce qu'on a ? Le fèvre, fèvre ou le fèvre. On a même le fébure, avec une difficulté pour l'écriture, puisqu'on a pris le V et le U ont été confondus. Un autre exemple, il y a cette chose dont on a déjà un petit peu parlé dans d'autres cas, où la succession K, C, A est restée K en langue d'oc, alors que c'est devenu Tch, puis Ch en langue d'Oïl. Par exemple, dans le français, hein, la chèvre, venant du latin capra. Et dans les parlés d'oc, eh bien, il y a capra ou capre, etc., avec un que, de toute façon. Cette langue d'oc est restée jusqu'au XVe siècle la langue du droit et de l'administration, même après le rattachement des terres du Languedoc, par exemple, à la couronne de France.
Après donc, les guerres contre les cathares, eux-mêmes voilà, en pleine guerre cathare, d'ailleurs.
Exactement. Oui. Et donc, ça a mis longtemps. Cette langue, elle s'est implantée de façon très, très nette. Et encore aujourd'hui, quand on compare la prononciation d'un Parisien avec la prononciation d'un Marseillais, on voit bien qu'il y a des différences. Hein. Immédiatement, on sait que le Marseillais va prononcer le A final du latin comme un E. Hein. L'école, et non pas l'école. La différence est encore restée. Alors, les variétés du domaine d'oc, peut-être qu'on peut les rappeler ici. Je crois que j'en ai dit un mot tout à l'heure. Au nord, le Limousin, l'Auvergnat, le Provençal alpin. Au sud, le Languedocien, le Provençal maritime. Et tout à fait à l'ouest, quelque chose de plus particulier, le Gascon et sa variété un petit peu particulière également, le Béarnais. La prochaine fois, on parlera du groupe septentrional des langues d'oc.
Limousin, Auvergnat, Provençal, Alpin. Voilà les trois que vous aborderez dans une prochaine émission. Merci Henriette Walter. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Aventures et mésaventures des langues de France » aux éditions du Temps et que cette série a été établie et enrichie grâce à notre partenaire, la DGLF-LF. Rejoignons maintenant Clément Moutier pour découvrir quelques extraits de chansons interprétées dans différentes langues d'oc.
C'est en musique maintenant que Canal Academy, en partenariat avec le Hall de la chanson, vous propose de découvrir les langues d'oc. Le Couru de Béra, un ensemble polyphonique attaché au répertoire des Alpes, vous interprète « Si laude Maria », une chanson issue du répertoire religieux populaire.
Si laude Maria, luna et l'eau, ciel honore à la terre, à l'adore. Tout homme et les cris, si laude, si laude, si laude et mal.
Le second extrait que nous vous proposons est chanté par l'une des voix les plus connues de Provence, celle de Jean-Marie Carlotti. Il vous fait découvrir ici une reprise en provençal d'une chanson du répertoire traditionnel « Galante de ta mistressa ». Plongez maintenant dans une culture locale particulièrement forte dans les années 1920-1930, celle des Auvergnats qui s'exprimaient en langue limousine. Le groupe Thomas et ses Merry Boys interprètent ici Nissa la Bella. Béarnais d'origine, André Mainviel nous parle du rôle de la chanson dans la préservation de sa culture. Il interprète ensuite un extrait de l'une de ses chansons, la Balagora.
Ben, la chanson, pour moi, c'est un peu comme la nouvelle en littérature. C'est une petite forme qui raconte quelque chose. Bien que j'ai tendance souvent à prendre un malin plaisir à séparer ce que j'entends dans un mot. Parce que quand j'entends chant et son, et j'entends chanson, c'est quelque chose qui est rapproché. Mais à l'intérieur d'une chanson, il y a un chant. Et un chant, c'est pas forcément quelque chose qui est avec des mots. On pourrait dire, pareil du son, un son, c'est pas forcément des mots, mais ça peut être des mots qui amènent un son, une sonorité. Ensuite, le sens, il se débrouille là-dedans, s'il peut. Étant entendu qu'au départ, une chanson, c'est évidemment d'amener au premier abord la notion du sens. Donc la chanson sert peut-être à poser un sens à ce que il doit être dit. Mais si je considère, comme j'ai lu dans le livre Le Chant des Pistes de Bruce Chatwin, que les aborigènes, par exemple, connaissaient leur géographie par le chant, c'est-à-dire comme les étendues étaient très, très grandes, eh bien les anciens détenaient des champs, et pour partir, marcher, traverser le pays, il fallait apprendre un chant qui nous indiquait la géographie dans laquelle on allait marcher, avec ses montagnes, ses plaines. Donc il fallait mémoriser une chanson et traverser à pied. Donc pour moi, le rapport à la chanson, il est aussi là, quoi. Où est-ce qu'on marche ?
Comme on a grande mescle des troubadours à nos jours, rap polyglotte nous, sur la route d'El Fuego, voisin chaud devant slow, improvisons double os, un tout petit code de prose, begin, bessine, gaz, concubine, cubaine, monovaine, tout doux, bat tout des bains, begin, bessine, gaz, concubine, cubaine, monovaine, tout doux, bat tout des bains, balagora, nusteramdam, balagora, ramdamdam, balagora, nusteramdam, balagora, ramdamdam.
Canal Académie vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, elle vous emmènera dans la région du Limousin pour y découvrir cette langue que l'on surnomme la langue d'or. Canal Académie vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la chanson www.lehall.com.